Miles Morales a grandi. Sa mâchoire s'est développée et il a développé de beaux poils d'araignée. C'est presque un adulte, mais ça reste un ado. Et malgré son grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités, il n'échappe pas aux tourments de l'adolescence, que ce soit avec sa mère et son père avec qui il est en conflit, ou dans ses notes qui chutent de 15 à 12 en espagnol, alors que maman est portoricaine. Bref, que des soucis et pas beaucoup de kiff. Dur d'être un ado qui mène une double vie. Un soir, alors que Miles est posé sur son lit, Gwen Stacy, la Spider-Woman du premier film et son crush d'araignée, débarque via un portail dimensionnel directement dans le plafond de sa chambre. Elle l'embarque dans le Hub, une sorte d'énorme QG dans lequel sont réunis tous les Spider-Man de tous les univers. Comme une Spider-Mama enceinte, un Spider-Punk, un Spider-Man indien, aussi appelé Spider-Nan. Bref, une chier de Spider-Man possible et imaginable, dirigée par Miguel O'Hara. Mais quel est le but de ce Hub? Souvenez-vous, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ce qui laisse peu de temps, voire pas du tout de temps pour vaquer à des occupations, disons, plus lubriques. Oui, ce Hub n'est autre qu'un Spider-Porn Hub. Pour que chaque Spider-Man et Woman goûte au doux plaisir de la vie, ou bien plutôt, y soit forcé, car Miguel O'Hara s'avère être un Spider-Mark Dorcel tyrannique qui est bien décidé à ne laisser partir personne tant que toutes les toiles ne seront pas vidées. Mais Miles, pour le bien de toutes les Spider-Tubs, est bien décidé à détruire ce système bien huilé. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier Sony Pictures Animation dans l'épisode numéro 112. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille, nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Spider-Man Across the Spider-Verse.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Mais tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul!
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Spider-Man Across the Spider-Verse, le dernier film de Joaquin Dos Santos, Ken Powers et Justin K. Thompson. Et oui, ils étaient trois derrière ce film. Après vous avoir exposé nos attentes autour de ça, Béa sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film. Ma team de podcasters qui ont pu appeler leur version d'eux-mêmes de l'univers 3310 dans notre épisode Béa. Souvenez-vous, on a Kevin.
Bonjour, bonjour chef.
Kevin qui a pu s'appeler et qui s'est découvert maître kebabiste.
Ça, tomate oignon.
Dans l'univers 33.
Arista sauce blanche.
T'avais réalisé ton rêve hein, dans cet univers-là.
Et oui, et j'ai goûté grâce à la dimension 3310.
Et c'est bon?
J'ai goûté mieux.
C'était pas ouf. William aussi est là, salut
ouais,
William.
Salut.
Salut.
Ouais, j'ai pris des vagues.
Hello. William, surfeur, tubeur. Oui. Oh là là.
Bah, j'ai appris à nager depuis. Voilà.
Dans l'univers 3310. Et Clémence aussi qui est là.
Salut.
Clémence qui doit être la plus deck de nous tous parce que dans l'univers 3310, c'était la vie de rêve. C'était
J'étais
la vie de gala.
Devenue impromptuement la femme de Andrew Garfield.
Tu as dérangé la secrétaire de Clémence Garfield du coup, qui elle se préparait pour le Met Gala.
Mais je leur ai demandé, enfin j'ai rappelé en fait, tu savais pas, je t'avais pris ton 3310, je l'ai rappelé, j'ai demandé de m'envoyer des petites vidéos.
Alors?
Moi j'ai des petites vidéos d'Andrew.
Comment
voilà.
Comment,
je ne dirais pas.
Comment trouves-tu ce couple?
Pas plus de détails.
Comment trouves-tu ce couple?
Parfait.
Alors. Et toi Romain, pas trop perturbé par ta mort?
Écoute, j'ai pu rappeler Jean-Michel qui m'a fait un live, c'était limite un live Twitch de mes funérailles.
Ah.
Il y avait Jean-Michel, sa femme et ses gosses.
Et c'est tout.
C'est tout, c'est triste.
C'est oui, mais triste. Ils en ont beaucoup des enfants, ça fait quand même une belle assemblée.
C'est vrai, bah ils étaient 10.
Et est-ce qu'ils avaient bien aimé le nouveau Besson Audrey?
Apparemment chef d'œuvre. Palme d'or hein, dans cet univers-là. Palme d'or et doublement Oscar. Il a eu deux fois l'Oscar du meilleur film. Ils ont créé un autre Oscar exprès.
Ah merde,
wow. Un, ça suffit
mais
pas.
Mais du meilleur film en A.
Ouais. Voilà. Quel univers, ouais. Mais je pourrais jamais voir ce film. L'univers 3310, voilà, si vous avez rien compris à tout ça, on vous invite évidemment à écouter un autre épisode BA autour de Spider-Man Across the Spider-Verse. On va en parler d'ailleurs de ce film aujourd'hui, on va donner nos avis et on vous prévient tout de suite, comme d'habitude maintenant en vrai.
Oui, hein, on va spoiler.
Et vous prévenir. Ça va spoiler, nous serons les Spoiler-Man et Spoiler-Woman de cet épisode parce qu'on va y aller, mais sans recours, j'ai envie de dire. Sans même détour.
Oui, ça va divulguer.
Sans phare et sans paillettes.
Voilà, exactement ce que je voulais dire. Ça va spoil. Alors déjà, on peut... Un petit spoil sur nos avis. Vous conseillez d'aller voir ce film.
Oui.
au cinéma, parce que peut-être que vous vous dites, ouais, mais je vais attendre qu'il sorte en DVD ou sur les plateformes.
Non, on ne fait pas ça.
C'est un film de cinéma, il faut que vous allez le voir au cinéma. Donc, claquez le PEL. Ouais, c'est cher une place si vous n'avez pas la carte, mais franchement, ça vaut le détour. Et voilà, ça fait un bon petit rencard si en plus vous êtes bien accompagné. Voilà. Vous en aurez pour votre argent en tout cas. Voilà, ça c'était le petit spoil de nos avis. On va tout de suite lancer la roue de la chance.
Oui.
Parce que le Pornhub et tous les compagnies.
On s'était un petit peu éloigné du sujet.
J'étais un peu déçu. Hein.
Chouïa éloigné du truc. Hein, voilà, le bon goût toujours a fait tabéa. Mais c'était pas ça. Bien sûr que non. C'est une toute autre histoire riche en rebondissements qu'on va tout de suite résumer. Et c'est le hasard qui détermine qui résume avec la
roue de la chance.
Roue de la chance. Qui tourne. Qui va résumer le film de la semaine?
Passez par là.
Yolo.
C'est moi?
Ah ouais, c'est toi, William.
Ça fait longtemps.
Je suis là comme ça, par contre.
Ah non.
Alors, en plus, c'est dense. Enfin, il y a beaucoup de...
Alors, bah, je vais essayer de m'en sortir. Donc, il s'est passé quelques années depuis le premier opus.
Un an et quatre mois, pour être précis.
Un an et quatre mois, donc. Miles a du mal à jongler entre sa vie de Superman et de
Ça commence
Spider-Man, pardon.
Il s'est trompé de film.
C'était pas dans la bonne
bien.
Séance.
Ça commence bien.
Clark Kent, des journalistes à Métropolis.
Non, donc Miles a du mal à jongler entre sa vie d'étudiant, des parents un petit peu trop surprotecteur et donc sa vie de Spider-Man. En plus, Gwen lui manque un petit peu, et ça tombe bien parce que le film commence avec Gwen qui, dans son univers, est obligée un peu de révéler son identité à son père, qui le prend plutôt mal. Donc elle décide de fuir et de suivre une espèce de gang de Spider-Man dans un hub virtuel, je sais pas trop comment...
Une brigade des multiverses.
Voilà, une brigade du multiverse. Ils veulent pas l'accepter. Finalement, ils l'acceptent. On sent qu'il y a une raison à leur refus. On va le comprendre un peu plus tard qu'en gros Miles est à l'origine de toutes les anomalies du multiverse, et quand Miles par divers péripéties se retrouve dans le hub, il se rend compte qu'ils vont pas le laisser sauver son père. Alors en gros, il y a un truc de son père doit mourir pour qu'il puisse devenir vraiment Spider-Man.
Il y a un élément très essentiel.
Ah bon,
qui est le...
Ah oui, attends, non, j'arrive après, je fais déjà ça. Donc en gros, lui, il veut sauver son père, et il se trouve qu'il y a un antagoniste qui s'appelle La Tâche, qui était en gros un espèce de scientifique dans le premier.
C'est ça, qui travaillait sur le... comment ils appellent ça? Le synchronotron.
Synchronitron.
L'espèce de portail que le Caïd...
Voilà, il se trouve qu'accidentellement, il se retrouve avec une espèce de tâche multidimensionnelle sur lui, et il peut voyager entre les univers, et il est décidé, en gros, à ruiner la vie de Miles en tuant ses amis, sa famille, en changeant un peu
le
cours.
Au départ,
de...
il va pour prendre en puissance en allant chercher les presses citrons dans tous les univers et emmagasiner de l'énergie, et après il va se manger.
Exactement. Bon,
Miles le prend pas au sérieux, ouais. Il se moque un peu de lui.
Oui,
en disant...
il l'appelle le méchant du dimanche, quoi. C'est pas très... Il le prend pas au sérieux. Il se trouve que ce personnage va devenir particulièrement sérieux et sévère. Il se trouve que du coup, Miles est un peu la cible de tout le monde, parce qu'il est à la fois la cible de La Tâche, la cible de Miguel O'Hara, qui est un peu le chef de la brigade... multivers, qui essaye de lui dire, bah mec, en vrai t'arrêtes pas de foutre la merde, donc tu vas arrêter de bouger, et on va suivre ces péripéties là jusqu'à un cliffhanger de fin qui moi m'a surpris. C'était la première fois que je me faisais surprendre par ce genre de truc.
Voilà. Donc on découvre aussi tout plein d'autres Spider-Man qui vont devenir un peu la nouvelle team après Spider-Cochon, Spider-Man Détective Noir, la Manga Girl du premier et tout. Mm. Donc on a la Spider-Mama qui est enceinte. Bon, tous ceux qu'on voit dans la BA à peu près, hein, Spider-Punk, Spider-Indien qui vient de Mumbatan.
Spider-Nan.
Ouais. Voilà.
Il y a un Spider T-Rex, un Spider Chat,
voilà,
il y a
tous
plein
les
de...
autres du Spider-Verse. Alors juste petite précision, ce n'est pas le multiverse. Dans le multiverse, il y a le Spider-Verse. Le multiverse, c'est ce que nous montre Marvel. Et
soyons techniques.
C'est vraiment le... Enfin, en gros, le Spider-Verse est fidèle au Spider-Man, quoi. C'est vraiment un truc qui les concerne que eux.
Et du coup, c'est pour ça qu'on verra d'ailleurs toutes les itérations, même des différents films qu'il y a eu avant. Voilà.
Ben ok, ben voilà, merci pour le résumé.
J'ai fait ce que j'ai pu. Hein.
William,
c'était pas évident.
C'est pas évident, parce que c'est vrai que c'est plein de rebondissements.
C'est très dense, ça va très vite, il y a beaucoup d'infos, mais ça reste très lisible et c'est une des grandes forces du film.
Et en plus, c'est la première partie d'un film en deux parties.
Oui, voilà, c'est le cliffhanger de fin qui, moi, m'a vraiment surpris. C'est-à-dire que d'habitude, je le vois venir, le truc du to be continued, tu vois. Et là, vraiment, quand ça arrivait, j'ai fait « Oh non, oh, je suis dégoûté !» Donc ils ont réussi à m'avoir.
Un film qui dure 2h et quelques, parce qu'on avait dit 1h55 dans l'épisode BR. En fait, c'est faux. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette mauvaise info sur Google. Le film dure 2h16, un truc comme ça, 2h20.
Et ça passe à une vitesse folle.
Ça va très vite. tout de suite, comparons la BA avec le film qu'on a vu, avec, tout simplement, vous le savez maintenant, hein, ça s'appelle le Douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
On a vu la BA et souvenez-vous qu'on était très hypé, il y a même eu William qui disait que c'était un des films que t'attendais le plus cette année.
Ouais.
Maintenant c'est vu, est-ce que cette BA, William, t'a douillé ?
Cette BA ne m'a pas douillé, je m'attendais à un film incroyable et malgré une expérience sale terrible, j'ai adoré le film.
Alors, on va en parler après de l'expérience sale, c'est vrai qu'on n'est pas, pas tombé sur la meilleure salle.
Hein. Oui, on l'a vu tous ensemble, il faut le
c'est
dire.
Un peu... C'est le risque à prendre quand on fréquente la salle la plus fréquentée du monde.
Voilà. Un vendredi soir à 18h45, c'était la mauvaise idée.
La semaine de sortie. Clémence, douille ou pas douille ?
Pas douille du tout. La BA était parfaite parce qu'elle en dévoilait pas trop et elle déflorait pas trop les éléments du scénario et en même temps, elle montrait que ça allait être un concentré d'émotions, d'actions, de graphisme ultra stylé et tout. Et c'est effectivement parce que le film, je trouve qu'il est même presque meilleur que le premier. Quoi. C'est un très bon film.
Bonne suite. Et ça, c'est rare hein, dans l'histoire du cinéma. Kevin, douille ou pas douille ?
C'est une douille positive, bien sûr.
Oh là 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 là,
oh là, là j'avais
on
peur.
On a eu peur.
Parce que si vous vous souvenez, moi, quand j'avais vu la BA, j'étais hypé graphiquement, mais j'avais des petits doutes sur l'histoire. J'avais peur qu'il y ait un peu de redondance et une perte d'inventivité. Bah, c'est pas du tout le cas. C'est mais génial, oui. C'est super. Donc, douille. Très positif.
Et toi,
c'est
Romain
réjouissant.
Oui, je suis content.
Alors moi, c'est un comment dire, c'est un douille ou pas douille en deux temps.
Ah bah oui.
Ah.
Attends.
Parce que j'ai eu.
C'est une douille en ternaire. 1, 2, 3.
J'ai vu le film deux fois. La première fois avec vous, c'est comme tu l'as dit, vendredi soir, 18h45, avec une salle désastreuse. En même temps, c'est le principe de la salle, quoi. Mais sauf que là, on est vraiment tombé sur tous les bouffeurs de snacks de notre univers à nous.
Il y a eu ça, on était mal placés, on était derrière les enceintes arrière.
Ouais, le gang des mangeurs de popcorn, le gang des mangeurs de chips, le gang des... je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais
qui mettent 10 ans à ouvrir leur paquet.
Le gang de ceux qui ont des montres connectées qui n'arrêtent pas de s'allumer à chaque notification, bordel de ta mère.
Le gang des personnes qui arrivent 5 minutes après le début du film et qui te mettent la lumière du téléphone dans la face en disant « Est-ce qu'il y a une place, mec, sois discret. »
Et problème de son aussi oui, au début du film. Alors ça fait deux fois déjà hein, qu'on va voir un film ensemble et deux fois qu'on a un petit problème technique. La première fois c'était Fast and Furious avec les lumières qui se rallument au milieu d'une scène d'action.
15 minutes de lumière allumée dans la salle.
Voilà. Et puis là cette fois-ci une enceinte qui se lance pas, donc une partie du son qui nous a été volée au début du film.
Serait-ce une vendetta de la part de l'UGC, on lui fait peut-être pas assez bien la pub et du coup ils ont décidé de se venger sur nous.
Je sais pas, ils huilent pas, c'est la machine qui tourne trop vite peut-être pour eux. Je ne sais pas. Donc du coup, frustré par cette expérience-là qui m'a fait ressortir d'un film qui était en dessous de ce que j'attendais, alors que la BA, je l'attendais beaucoup. Pour l'instant, on est sur un padouille. On était sur un bon douille. Enfin, un mini douille, parce que c'est vrai que
quand t'es sorti, t'avais l'air vraiment en colère par rapport.
Une petite douille amère.
C'est beaucoup. Voilà. En fait, c'était des stimuli à longueur de temps, quoi. C'était d'un côté, il y avait les craquements de celui qui ouvre son paquet de chips et qui se les bouffe comme s'il était à la maison. Derrière de moi, j'avais un mec qui jouait des genoux dans mon fauteuil. J'ai cru que c'était une séance 4DX à la fin. je savais plus où est-ce que j'étais. Donc, ça m'a sorti du film. J'étais un peu frustré quand on est parti boire cette petite bière de après séance. Et je me suis dit, non, je ne peux pas rester sur un échec. Enfin, un échec, ce qui était quand même une bonne expérience, parce que le film est quand même ouf, assez ouf, pour que je ne ressorte pas non plus désastré, j'allais dire. On va dire désastré.
Dévasté.
Dévasté. Donc, je suis parti le voir ce matin, séance de 9h, 20 personnes dans la salle, grande salle, notre salle pour le coup, parce que je me suis dit, je vais voir, parce qu'il y avait deux salles qui tournaient à l'UGC Lille. Donc, je suis parti voir à la salle 1, pas la salle 10 cette fois-ci. Donc tout seul, bien placé, premier tiers, milieu, bam, là où les sons se synchronisent dans tes oreilles.
Point d'écoute du 5-1, n'est-ce pas ?
Voilà, sans aucune personne qui bouffe des pop-corns en même temps, 9h du mat, ça aurait été chaud.
J'imagine s'il y avait vraiment eu quelqu'un qui bouffait des pop-corns, comment tu l'aurais regardé ?
J'imagine, t'as regardé le film, t'as entendu du grille-pain.
Les mecs qui bouffent leur Kellogg's.
La machine à café, Tassimo.
Un mec qui t'en
Tu veux des smacks ? Non, et donc du coup l'expérience a été parfaite et j'ai encore plus apprécié le film et j'oublie tout ce que j'avais pu penser sur les problèmes de rythme tout ce qui m'avait fait sortir du film à ce moment-là et qui m'avait fait mal penser en fait de mon premier visionnage. Le deuxième visionnage a tout résorbé et je trouve que voilà, le mot, je vais le lâcher, c'est un chef-d'œuvre. C'est clairement un chef-d'œuvre. Donc du coup, un pas douille pour commencer avec des petits pinaillages sur le rythme et tout, puis finalement un gros douille positif. C'est un pas douille positif parce que j'attendais beaucoup ce film et j'ai été encore plus surpris, comme tu l'as dit, Clémence. c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas dans la BA et qui sont juste, c'est du kiff en barre.
C'est ce qu'on espérait.
Et voilà, encore une fois, une maestria graphique. Mais alors là, mais en plus, moi, j'en prends plein la gueule à chaque fois. Parce que j'adore l'animation. Et quand c'est fait comme ça, là, mais je suis pas loin de l'orgasme. Hein. Je vous le dis direct. Hein.
Vraiment, il est resté dans la thématique Pornhub, Romain.
Tout le long.
Mais c'est, voilà. Et puis en plus, c'est un traitement des personnages. Je suis déjà dans la vie. Je vous
rebondis sur allons-y.
Mais
vas-y.
C'est un traitement des personnages que je trouve très, très bien géré. Il n'y a personne qui est laissé pour compte, notamment les deux principaux, on va dire, hein, Gwen Stacy et Miles Morales, et en plus réunis par leur habit et leur travers psychologique d'aventure de Spider-Man. Enfin bref, tout le monde se ressemble dans ce monde-là, mais surtout ces deux-là qui ont le même âge pour le coup et qui vivent traversent à peu près les mêmes choses. Enfin, ils ont pas le même âge, elle est un peu plus vieille. Ok, d'accord, mais bon, t'as compris. Et donc, je trouve que les deux personnages sont très bien traités, notamment sur la question parent-enfant, quoi, tout ce qui va avec, comment gérer son alter ego et comment se situer dans ce monde quand on est Spider-Man. Bref, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, etc., etc. Enfin bon, bref, j'en parle mal comme ça parce que là, je suis lancé à 100 à l'heure, mais voilà, je trouve que c'est très bien traité. L'histoire pensée en deux parties fait qu'on termine sur un cliffhanger, mais chapeau, quoi. Rien à dire, avec une montée en puissance de la musique. Chaque personnage a son univers musical comme il a son univers graphique. Donc ça change, à chaque fois qu'on change d'univers, on change d'univers graphique. Et de voir ce mélange comme ça opéré à l'écran, bah, c'est quelque chose qu'on voit nulle part ailleurs.
Il y a des supers idées en plus.
Hein. Et, ouais. Voilà, et puis c'est pas fait avec le cul. Donc,
ouais,
voilà.
C'est ça, tout est pensé et tout est bien complet. Quoi.
Chaque plan est pensé, chaque cadre est pensé. Mmh. On a encore magnifiquement cet hommage rendu à l'essence même qu'est Spider-Man, c'est-à-dire au départ une feuille de papier mal imprimée avec un héros qui déborde, quoi, hein, des couleurs qui débordent. Donc on retrouve tout ça. Et puis, bah non, bah, je sais pas, une bande-son fantastique. Enfin bon, bref. 5 étoiles, rien à dire. Spider-Man, Cross the Spider-Man. 5 lunes, oui, c'est vrai, je note en ligne.
Sur les toiles d'araignée.
Enfin voilà, je vous laisse en parler avec plus d'adjectifs.
Il y a un truc en plus de, effectivement, la créativité graphique, cette liberté graphique, c'est que la mise en scène fait aussi référence évidemment aux cases de comics. Et je trouve que c'est pas juste fait comme ça, de façon bébête, comme on a pu le voir dans d'autres films, c'est que vraiment, il y a des. En fait, ça met un dynamisme de mise en scène, ce principe des cases. C'est-à-dire que tu vois un perso, par exemple, qui est en train de se déplacer, et d'un seul coup, il y a un split screen, en fait, et une autre case qui s'ouvre sur le côté, et c'est soit zoomé, soit c'est la continuité du plan, en fait, de ce qu'on voyait au départ. Et ça produit vraiment cet effet qui est un effet réel de lecture, en fait, de gauche à droite, quoi. C'est incroyablement bien fait.
C'était Ang Lee qui avait essayé de faire ça dans le premier Hulk, je sais pas si vous vous souvenez, avec Eric Bana.
Ouais,
il y avait
oula,
des transitions avec
ah ouais.
des cases BD, mais ça marchait pas du tout comme ouais. là.
Non, moi je me souviens par exemple dans Deadpool, tu vois, ça avait été fait parce qu'il y avait le côté méta et tout, mais c'était un peu accessoire, quoi. Là, je trouve que vraiment ça fait partie de la mise en scène
ça
et du dynamisme de mise en scène et de narration. Ouais. Et c'est vrai que pour détailler un peu plus au niveau graphique, je trouve ça mais incroyable la liberté qu'il se donne, en fait. Ne serait-ce que par exemple, il y a une scène d'ouverture, première scène d'action dans le monde de Gwen Stacy. Donc déjà, son monde à elle est différent de celui de Miles Morales en termes d'image, de couleurs, de traitement. Et en plus, il y a un méchant qui arrive d'un autre univers, qui est le vautour, mais qui arrive d'un univers type Léonard de Vinci, quoi.
Version Renaissance. Ouais.
Renaissance. Et il n'est pas du tout dessiné pareil. Il est vraiment en sépia, gris marron, avec du trait de dessin technique à la Léonard
ouais,
de Vinci, quoi.
Croquis, ouais.
C'est incroyable. Il est magnifique. En fait, ça pourrait être complètement rebutant d'avoir des décalages graphiques comme ça. Et en fait, il s'intègre tellement bien, c'est si bien fait. De la même manière, il y a le Spider-Man punk qui est complètement en collage, en fait, comme des affiches, tu vois, de punk anglais et tout. Il est trop, trop bien fait aussi. Il s'intègre super bien. Enfin, franchement, moi, j'ai été époustouflée par ça visuellement. Et en plus, il y a des parties pris, quoi. Par exemple, les moments d'émotion entre Gwen Stacy et son père, où c'est du dialogue, c'est du chant contre chant, quoi. On passe d'un personnage à l'autre. Bah, en fait, il y a des fonds visuels derrière eux qui d'un seul coup prennent des couleurs complètement surréalistes et c'est presque de l'art contemporain, quoi, enfin de la peinture.
Posca,
En fait, ouais. dans son univers, t'as l'impression qu'en fonction de son émotion,
ouais.
la
Tout
couleur du personnage
couleurs.
Change
ouais.
et que c'est dans son univers à elle, ça fait partie de la diégèse de son monde.
Ça
quoi.
Prend le parti très osé de plus être réaliste, quoi, de presque effacer le décor et les éléments qu'il y a autour d'eux et ça devient un truc qui est purement émotionnel, quoi. Enfin, ça, je trouve que c'est vraiment des prises de risques et de liberté qui sont hyper rafraîchissantes.
Spider-Punk aussi. Et après, j'ai appris qu'il avait, ils ont mis les animateurs 2 ans à animer ces séquences. Hein. Et puis même, ça se ressent aussi dans les, dans son portail. Je sais pas si tu vois à la fin.
Oui.
Quand ouais, il, ouais. Parce qu'il a fabriqué lui un bracelet pour aider Spider-Gwen. Et même le portail a les caractéristiques graphiques du punk. C'est
et en plus de ça, les personnages sont ultra attachants et bien caractérisés. Comme tu le disais, il y a déjà les deux héros, mais même les secondaires, les nouveaux qui sont amenés. En fait, il y a toujours cet humour qu'on retrouve, comme dans le précédent Spider-Man Into the Spider-Verse, où ils sont tout de suite attachants parce qu'en fait, il y a un humour qui est très proche de nous et qui tombe très juste, quoi, qui est à la fois un peu référentiel par rapport à l'univers et à la fois très par rapport à qui ils sont, eux, leur âge d'adolescent, leur rapport avec les parents ou quoi, parfois, les histoires d'amour.
Et parfois un poil absurde comme nous ont habitué Chris Miller et Phil Lord, notamment dans Lego, des humours à la Lego Movie ou à la Tempête de boulettes géantes, c'est pas tout le temps ça, heureusement.
En fait, ils sont allés chercher tous les gros avantages de ces films-là et ils les ont inclus dans leurs films en faisant de manière hyper intelligente et maligne, quoi. Ça déborde pas trop, ça vient s'emboîter parfaitement dans un univers hyper bien construit.
Ouais, et le dernier truc que j'ai adoré, c'est l'émotion vraiment assumée, notamment dans la thématique des parents qui essayent d'élever leurs enfants et de prendre soin d'eux et qui les comprennent pas. Les parents de Miles qui sentent qu'il leur ment et qu'il dit pas un truc. Enfin, voilà, je trouve qu'on pourrait avoir l'impression que ces moments sont des longueurs dans le film, mais en fait, je trouve qu'ils sont vraiment nécessaires pour que le scénario soit aussi excellent et c'est ce qui nous implique, quoi.
Et la thématique de la mort aussi, qui est quand même très présente.
Ouais.
Qui est beaucoup plus adulte, qui prend, du coup, qui donne un ton plus dramatique au film et en même temps, qui se marie très bien avec le reste. Parce que je veux dire, c'est bien géré, quoi. Il n'y a pas un moment qui détonne.
De la même manière que dans le film, il est expliqué que c'est le nœud du canevas chez Spider-Man, c'est-à-dire qu'ils ont toute une théorie autour d'eux. Il y a des points clés dans la vie de tous les Spider-Man qui leur permettent de devenir ce qu'ils sont. Et il se trouve que même s'ils ont tous leurs univers et que dans chaque univers, le Spider-Man est différent, ça peut être une femme, un homme, un animal ou ce que tu veux, mais alors ils ont quand même tous des points communs. Donc c'est les nœuds, le canevas. Et de la même manière, t'as l'impression que cette thématique de la mort, c'est aussi un des nœuds de narration du film. C'est assez malin parce que c'est une mise en abîme de la narration à travers la narration carrément du personnage, tu vois. Le film, là où il est malin aussi, c'est que quand en effet il traite de l'émotion, ils le font aussi par la mise en scène. Tu peux avoir par exemple Miles et Gwen qui vont parler ensemble. Tant qu'ils parlent chacun de leur univers, ils peuvent jouer sur une séparation physique. Par exemple, elle marche sur le dessous d'une gargouille pendant que lui marche au-dessus. Donc ils parlent de la même thématique dans leur univers séparé. Tu vas avoir un temps de respiration, un plan large où tu les vois. D'ailleurs, à chaque fois, les plans larges sont fabuleux. Moi, j'en ai pris plein la tronche. J'arrive même pas à croire de ce que j'ai vu sur... Il y a des plans. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est trop beau, tu vois. C'est hyper bien pensé. Et puis, dès qu'ils se mettent à parler de leurs émotions à eux ou qu'ils se mettent à reparler d'une thématique commune, hop, ils vont aller dans la même dimension, tu vois. Donc, l'un va rejoindre l'autre sur son même point de vue. Et du coup, la caméra va bouger. C'est plus... eux qui te bougent dans le décor, c'est le décor qui bouge autour d'eux, tu vois. Ils jouent en plus avec la relativité du déplacement, ce qui est possible dans le médium de la BD. Et c'est là où le film est trop fort, c'est qu'ils ont réussi à mélanger deux médiums ensemble. T'as à la fois de l'animation, du film, et comme l'a dit Clémence, ils arrivent à y intégrer les codes de la BD. Et c'est... Je sais pas, je trouve que le film est une réussite en termes de rythme. On parlait de cette narration sur des thématiques déjà connues, mais ce qui est bien, c'est que c'est toujours bien rythmé. Les séquences d'émotions arrivent au bon moment pour te faire respirer après une longue séquence d'action. Quand les séquences d'action est un peu longue, ils trouvent le moyen de te mettre des ralentis où tu as le temps de prendre une photo tellement c'est beau, ce qui te permet de respirer un bon coup. Tu as parlé de la BO elle est fabuleuse, moi. Et malgré le fait qu'on était hyper mal placé, que je sentais qu'il se passait plein de trucs dans le son et que je pouvais pas le percevoir parce que j'étais mal placé, j'ai trouvé la musique géniale et les effets sonores que j'ai malheureusement mal perçus, je les ai trouvés quand même vachement pénétrants vu malgré ma place, tu vois. Enfin, vraiment, t'as dit le mot chef-d'œuvre. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais. Et j'avais peur, comme l'a dit Kevin, que une fois la surprise passée de l'animation, le deuxième film, je me dise, ouais, c'était bien, mais bon, le premier avait fait mieux. Bah moi, je trouve que c'est même un meilleur film que le premier.
Bah là en fait, c'est enfin, ce qui est vraiment
sans hésiter, tu vois.
Ce qui est vraiment dingo, c'est que là où c'est les personnages, tu vois, je pense au Spider-Man détective noir ou le côté manga ou de Penny.
Penny,
dans le premier, ou le côté cartoon du Spider-Cochon, c'était des styles différents mais qui venaient et qui étaient juste sur le personnage dans le monde de Miles Morales. Là, pour le coup, c'est lui qui se déplace dans ces mondes-là et donc c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres.
C'est la porte ouverte à l'imagination des différents animateurs. Et c'est là où tu te rends compte qu'ils ont dû réunir autour de ce projet-là une quantité d'artistes aux univers variés. Parce que ça peut pas être juste une équipe de 10 personnes qui se sont dit, bon, alors qu'est-ce qu'on peut imaginer. Chacun est venu avec son univers, ses goûts, et ses influences, et ça s'en ressent. Moi, par exemple, j'ai adoré le Spider-Man indien. Toute la séquence, toute cette séquence, elle est folle dans le film. Il y a une question de rythme, de blague, de style graphique, d'évolution. En plus, c'est là où tu commences à comprendre les histoires de nœuds du canevas. Enfin, c'est pour moi, c'est une des scènes charnières du film, tu vois. Et elle est réussie de bout en bout.
Kevin, malheureusement, t'as plus laissé grand-chose, mais je pense que t'en as encore quand même sous le coude.
Mais je suis d'accord avec vous. Mais après, moi, je continue à penser qu'il y a quelques petits problèmes de rythme dans le film. C'est moi qui ai le plus mauvais rôle. Je dis les micro défauts de pinaillage, alors qu'en fait je trouve que c'est hyper bien. Mais je trouve qu'il y a des petits défauts dans la rythmique, surtout les passages avec les parents, les passages de discussion qui sont parfois un peu tirés malgré la beauté graphique du truc. Mais encore une fois, c'est pas grand chose face aux qualités. Autre petit défaut, moi je trouve, c'est même s'ils s'en sortent plutôt bien, c'est cette volonté de vouloir mettre. Des images des films précédents, je parle des films live, et je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé avoir un film full animation totale, sans avoir ces incursions dans le monde de Venom, sans avoir le Childish Gambino dans une cage et sans avoir tout ça. C'est les seuls défauts, sinon c'est trop bien. Alors passons maintenant aux qualités.
Puis après, c'est des petits passages.
Mais je veux bien répondre à ça, ayant vu une deuxième fois, parce que c'était des choses que j'avais aussi soulignées à la sortie du truc en disant ouais, le rythme, les passages avec les parents sont un peu longs et tout. Ça, déjà, j'ai revu une deuxième fois. Franchement, je ne l'ai même pas ressenti.
Non, parce qu'en fait, ils n'appuient pas dessus. C'est là, ça passe.
Et puis ça passe. Oui. Et puis en plus, tu comprends l'importance du truc. Je ne sais pas si c'était le fait d'avoir déjà vu le film qui m'a fait. Mais en tout cas, je trouve que là, c'est passé crème. Et après, je sais pas aussi si parce que j'ai passé encore un plus bon moment que le premier, mais je suis prêt à accepter cette idée de relier avec les films live si c'est fait dans cet esprit-là. Je veux dire, je veux pas que ça vienne vampiriser la suite. Si on décide de faire une Roger Rabbit à un moment et qu'on mélange du film live avec de l'animation, déjà, je veux que ce soit pas l'inverse, quoi. C'est pas Miles Morales qui arrive dans le monde de Tom Holland ou je sais pas quoi, mais plutôt l'inverse. Et que ce soit fait dans cet esprit-là, tu vois, vraiment.
Non, mais
qu'il n'y a pas un Spider-Man qui est au-dessus des autres, tu vois. C'est
surtout que je trouve que c'est des scènes qui ne servent pas à grand-chose, à part à teaser des trucs. Tu vois, par exemple, la scène de Miles Morales, Childish Gambino, c'est juste pour teaser le rôdeur, pardon, qu'il y aura dans le MCU, tu vois. C'est quand même des trucs de contractuels et qui, moi ça a tendance à m'agacer, mais bon. Au moins, l'intelligence du film, c'est de pas les mettre au premier plan. Mais c'est quand même là et. C'est, pour moi, c'est une petite pointe. Pour ça que je dirais pas chef-d'œuvre, parce qu'un chef-d'œuvre n'a pas de défaut et ce film, je trouve qu'il en a.
Après, sur un film qui parle du multivers, je trouve ça assez cohérent. Tu vois.
Oui, je comprends.
C'est cohérent,
j'aurais bien aimé que ça soit fait de manière plus fine que de cette manière-là. Mais les défauts étant énoncés, moi, je trouve que c'est un film qui est excellent. Je trouve que l'animation, elle est dinguissime. Artistiquement, je trouve que tous les plans, c'est des tableaux. J'ai envie d'avoir tout en fond d'écran. Je sais pas quoi choisir.
Le plan, ils sont tous les deux assis à l'envers sur la.
Très,
sur
très beau,
de,
ouais, très beau.
D'avancer là avec New York en fond, avec la caméra qui tourne.
T'as un super plan, Miguel O'Hara, la Batman de Miguel O'Hara avec la pluie rouge là, incroyable aussi. Mais donc tout est magnifique. La rythmique, malgré les petites longueurs, je trouve ça assez hallucinant, notamment dans les scènes d'action avec une lisibilité qui est folle, alors qu'il y a je sais pas combien de personnages à l'écran.
Il se passe des explosions
partout, arrière-plan, second plan, premier plan, il se passe des trucs tout le temps. Il y a des changements de style graphique en permanence et ça se tient. Et ça, franchement, c'est un travail. J'imagine même pas les heures qu'ils ont fait là-dessus. Ouais.
Les mecs qui ont dessiné le storyboard.
C'est un travail, mais de titan, quoi. Et artistiquement, c'est hyper bien retranscrit. Donc non, c'est un méga, méga bon film d'animation. C'est un super bon film Spider-Man. C'est peut-être le meilleur film Spider-Man qu'on a eu. Tout film Spider-Man...
J'ai des frissons, là, tout à l'heure, je vous dis.
Confondu.
On va devoir créer une autre catégorie de la tier list.
Et ça met quand même une bonne claque au film du MCU, quand même. Ah, enfin, au Spider-Man, je parle.
Tu peux dire les films du MCU tout
court.
Oui,
mais là, on parle du parce que moi, ce qui me fait rigoler, c'est que j'arrive pas à m'empêcher de voir un petit pied de nez l'histoire du canon narratif de chaque Spider-Man doit avoir ces éléments perturbateurs, qui sont importants pour l'ADN du perso et que Tom Holland, enfin le perso de Tom Holland n'a que dans son troisième film.
Oui, lui, il part en vacances. C'est
non, mais qu'il a juste dans son troisième film et où en gros le perso de Tom Holland devient Spider-Man tel qu'il devrait être.
À la mort de Iron Man, ça.
À la fin du film.
Ah, c'est à cause de Tante May. Ah, ouais. Parce que moi, pour moi, c'était genre la figure paternelle d'Iron Man.
Non, c'est quand Tante May est morte.
Petit ange parti trop tôt.
Mais du coup, c'est intéressant parce que je trouve que en plus le film a ce truc malin, un méta, mais méta malin, de t'interroger sur ce qui fait l'essence d'un personnage. Est-ce qu'il doit respecter le canon, est-ce qu'il ne le doit pas, et s'il connaît le canon qu'il est censé respecter, est-ce qu'il a le droit de le briser en restant lui-même? Et je trouve que c'est des belles questions.
C'est vrai que c'est intéressant, ce truc du drame fondateur ou des différents drames, le fait de dire qu'il y a des moments géniaux et heureux, et il y a aussi des drames. Alors, ça parle à la fois de la vie de quiconque, mais ça parle effectivement de ce qui fait un héros et
sachant que Miles Morales a l'air de vouloir stopper son drame fondateur, alors que son drame fondateur, il l'avait quand même déjà eu avec la mort de
Oncle Aaron. Mais c'est intéressant justement,
donc
même cette idée que lui,
d'inéluctabilité de drame fondateur qui fait que c'est comme ça que le perso se construit, mais avec quand même la volonté de le stopper, je trouve ça intéressant.
Non, mais ce qui est intéressant même, c'est que lui, humainement, il a effectivement déjà un deuil dont il essaye de se remettre avec son oncle, mais il n'a pas envie que ça se reproduise, quoi. Et c'est intéressant comme question, en fait, de dire... Bah...
Je trouve que ça serait le seul perso à qui ça arrive deux fois dans,
non,
le, dans le cercle familial.
Ah, bah, Andrew Garfield, il a perdu le père de Gwen Stacy.
Oui,
et,
en fait,
oncle.
À chaque fois, il perd le père de Gwen Stacy. Mais jusque-là, son oncle, c'est son oncle, et que le capitaine, c'est aussi son père. Donc là, c'est sa famille directe. C'est le seul perso qui perdrait deux membres de sa famille.
Oui, mais Miles, c'est aussi l'anomalie qui fait qu'il n'y a plus de Spider-Man. Peter Parker dans
son
univers.
Mais c'est en ça que le perso est intéressant, je trouve.
En fait, il y a la question de aussi, très bien, le drame est aussi fondateur que le moment de bonheur dans la vie de quelqu'un. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément ce drame-là, tu vois ? C'est-à-dire que, certes, tous les Spider-Man ont eu un drame qui les a poussés à devenir une meilleure version d'eux-mêmes, mais Miles, il peut très bien le dire, bah très bien, moi, je peux aussi bénéficier pour potentiellement de votre expérience.
Oui.
Je ne suis pas obligé de passer par ce traumatisme-là. Il y en aura d'autres, probablement, tu vois. Et je trouve que c'est une bonne question à se poser.
Mais tu vois, l'essence, elle est respectée quand même. C'est où ils sont malins, parce que, en fait, certes, le drame fondateur, c'est important, mais ce qui fait l'essence de Spider-Man, c'est le dilemme. Spider-Man, c'est le héros qui doute, en fait. C'est ça son ADN. Et Miles Morales doute énormément aussi. Je trouve que, contrairement à Tom Holland, le personnage de Tom Holland, bien sûr, je trouve que c'est vraiment des films, enfin, pour l'instant, ce diptyque-là qui va être une trilogie, c'est vraiment des films qui ont compris ce qu'était le perso, ce qu'il représentait. Et ben merci, quoi, ça fait plaisir. Après les quatre douilles qu'on s'est tapées chez les autres, là.
Et ce qui est hyper encourageant, c'est qu'à la fin du film, donc, il y a des révélations, notamment autour d'un futur antagoniste. On dit qu'on spoilait. Hein.
Ouais, tu peux y aller.
Qui n'est autre que Miles, mais une version Sinister Six de lui. Dans l'univers d'où vient l'araignée qui l'a piqué. Son père est mort et du coup, c'est devenu un chef de gang à la tête, qui contrôle son oncle. C'est lui qui est devenu le rôdeur. Et je trouve que ce personnage dégage un truc. La scène finale, là où ils sont tous les deux face à face. Moi, ça m'a vraiment foutu des poils dans la salle.
Puis la musique, là. Enfin,
et ça annonce... Enfin, toi, pour moi, un bon super-héros, c'est quand il y a un bon méchant. Ton super-héros ne peut être bon que s'il y a des bons méchants.
Mais là, à partir de là, moi, c'est vraiment ce qui m'a encore plus marqué ce matin quand j'ai revu le film. Vraiment, à partir du moment où il s'enfuit du hub, du Spider-Verse. Mmh.
C'est magistral, cette fin.
Mais, et qu'on a ce montage alterné entre la poursuite, on a l'impression qu'il est poursuivi, parce qu'ils sont tous les deux sous la pluie dans la même ville. Et en fait, c'est trop intelligent en termes de mise en scène.
Le twist est trop bien amené, en fait.
En termes de mise en scène, même, ils réussissent à te cacher en faisant passer les émotions de Miles en schéma. Et donc, ça vient illustrer toute son avancée dans la ville où il tient absolument à retourner chez lui parce qu'il tient à fuir
à sauver son père,
son destin, quoi. Son destin fatal, celui de voir son père mourir. Et donc, on a toute cette course-poursuite entre Miguel O'Hara et les autres, et Gwen et tout, où eux le poursuivent dans un univers où en fait il n'est pas là. Donc, et il pleut, c'est le seul point commun qu'il y a entre ces deux univers-là, mais la ville n'est pas la même. Sauf qu'il nous le cache derrière les émotions schématisées de Miles, où on voit derrière où il se refait le cours de toute l'histoire et tout. Et donc,
on est focalisé là-dessus, au lieu de se focaliser sur des micro-détails.
On voit ses pensées qui prennent la place des trains et tout. Et donc, on n'est pas sur les immeubles, sont pas les mêmes. Et même lui, du coup, ça traduit le fait qu'il est perdu et qu'il ne comprend même pas qu'il est dans le même univers jusqu'à tomber sur la révélation où sa mère lui dit mais t'es en train de partir en couille. Et là, il se rend compte qu'il glitch et que c'est trop bien amené.
Mais ce moment est trop bien orchestré parce qu'effectivement, ça passe par une énième discussion un peu plus posée. On s'attend à ce que ce soit comme les précédentes discussions qu'il a eues avec ses parents. Et en fait, il y a ce twist de se rendre compte que c'est pas la bonne mère et qu'en fait, il y a un gros décalage et c'est dramatique. Mais en plus de ça, comme tu dis, la ville, on voit pas. Et au moment où on voit la vue sur la ville et qu'on voit que c'est une ville où il y a plus de super-héros et où tout est en feu et tout, il y a que des catastrophes qui se passent, ça fait un effet de fou, quoi. C'est un truc qu'on a vu plein de fois dans plein plein de films, le truc un peu soit temporel, soit d'univers alternatif, où en fait le personnage n'est pas à l'endroit où on croit, il ne croise pas ceux qui le cherchent ou qui doivent le retrouver. Mais en fait là, ça marche, mais super bien. Moi, c'est ce qui m'a trop plu.
Trop bien monté, c'est trop bien pensé, la mise en scène, elle est oufissime.
Et ça coupe au moment où t'as envie de savoir la suite, et ça marche de ouf. Moi, vraiment, j'étais là, genre.
Mais toute la salle, même, il y a plein de gens, même encore ce matin, il y a des gens qui t'en ont dit. Nous, on le savait parce qu'on avait.
Moi, je le savais pas, parce que j'ai lu aucune info, tu vois. Je m'étais dit, à part ce qu'on fait pour la bande-annonce, je veux pas avoir d'infos, je vais me préserver de tout. Je savais pas qu'il y avait un troisième film. Je
pensais que t'avais. On savait juste qu'il y avait un troisième film, on savait pas que c'était.
Ouais, pour moi, c'était une blague que t'avais sortie pendant l'épisode, toi, qu'on avait fait, en fait.
Bah après, tu savais que ça allait être coupé en cliffhanger, vu le temps que tu t'avais passé dans la salle.
Mais non, parce que, en fait, moi,
pour une heure d'action.
À aucun moment, j'ai regardé mon téléphone. Pour moi, genre, on était encore.
Moi, j'avais l'heure du mec qui recevait les notifs. Ah bah oui. Devant moi.
Je savais. Mais j'avoue que moi non plus, je savais pas et je pensais vraiment qu'ils allaient faire en sorte de résoudre ou de faire un acte final en combat contre la tâche, Miguel O'Hara. Et là, je vois qu'il y a en plus un troisième antagoniste. J'étais en train de dire, oh là là, mais comment ils vont résoudre ça? Enfin, comment ils vont démêler ça au moins pour la fin du film? Et du coup, ben, j'ai été vachement surprise aussi que ça s'arrête.
Et vraiment, ça, l'effet recherché, sur moi, il a fonctionné à 100%.
Tous les gens, ils sont en mode non! Encore ce matin, j'avais un mec à côté de moi qui était pris dans le film pareil et qui disait non, putain, non, à suivre, comment ça? Et c'est trop bien.
Et Romain, il était là, genre.
Bah, ah non, je crois que c'est prévu pour avril l'année prochaine. Hein. Faudra pas. Heureusement, les deux films ont été faits à peu près en même temps.
Je vais te dire un truc, je suis prêt à attendre 3 ans s'il nous sorte un film d'une telle qualité.
Il va falloir faire encore attention à
pas mourir.
Mais en
fait, ce qui est un peu frustrant, c'est qu'on est tellement habitué. Regardez
à gauche et à droite avant de traverser, putain.
un an de stress.
On n'est plus habitué du tout au cliffhanger dans les films. En général, on est plus habitué aux cliffhangers dans les séries et on est habitué aux séries qui font des cliffhangers à la fin de chaque épisode dans une même saison. Donc en fait, en plus, on binge-watch les séries, c'est-à-dire que toute la saison est disponible. Donc on a trop ce plaisir souvent de s'arrêter à la fin d'un épisode et dire oh, bah, je regarde la suite tout de suite, je peux pas m'arrêter. Et là, quand t'as ça face à un film, ça m'a fait pareil pour Dune. Quand t'as ça et que tu sais que ça arrive pas tout de suite, il faut attendre au moins un an, mais c'est tellement frustrant, on n'est plus habitué en fait. Mais c'est bon.
C'est encore mieux quand c'est bien fait comme ça, quoi.
Ce qui est bien, c'est que du coup, ça va créer un SDA chez nous, mais qui d'une bonne positive, tu vois. Pour moi, très souvent, le SDA, c'est un peu négatif dans le sens où j'en attends trop et je vais être déçu. Là, vraiment, je pense que c'est très positif.
Et du coup, vous imaginez comment la suite, là ? Beyond the Spider-Verse.
J'ai pas envie de me projeter. J'ai envie qu'ils arrivent à me surprendre. Je vais essayer de ne pas y penser. Je vais essayer, tu vois,
de toute façon, avec tout ce qu'on a imaginé, on était loin du compte. Donc,
moi, je m'attendais à des Spider-Tub, il n'y en a pas eu.
Non, mais là,
c'est
il y aura
point négatif.
On nous a
attention, Beyond the Spider-Verse, il y aura de la tub. Moi, je vous le dis.
Ça va, Ken, cette fois-ci. Non, mais il y aura du Sinister Six, forcément. Donc, on va avoir des méchants iconiques. On reverra.
Ah, mais moi, je connais pas les
on
comics.
On reverra le Rhino, Electro et compagnie.
Moi, je veux juste que Miles Morales et Gwen y finissent ensemble. Là.
Oh yo yo.
Alors, moi, je vais casser tes rêves, mais je sais avec qui va finir. Avec la Spider-Bite.
Ah,
la
ouais,
petite hologramme, là. Parce que Spider-Gwen...
Bah, moi, je pense qu'elle va mourir.
Elle,
c'est terrible, mais je pense qu'elle...
Non, c'est pas forcément, mais c'est plutôt son idée de relation qui va mourir. Parce qu'elle va le friendzone.
Elle l'a presque annoncé comme une prophétie dans cet épisode-là, où elle lui dit toutes les histoires entre... Spider-Man et Gwen Stacy se sont mal finis et c'est pour ça qu'ils veulent qu'elle respote, même
c'est
si
vrai que Gwen Stacy meurt quand même souvent.
Mais j'ai l'impression que c'est presque prophétique. C'est genre, ça se fera pas entre nous. Quoi,
non, mais ils vont
faire,
rester très bons amis. Et puis elle est un peu plus vieille que lui, elle doit avoir quoi? Non, c'est
et
pas
alors
possible.
Et bah, alors
il a 15 ans,
elle en a 16.
Regarde Brigitte et Macron.
Elle est clairement majeure.
Elle va enseigner le français à Miles Morales et tout. Il va tomber amoureux d'elle.
Minimum, elle a Gwen Stacy.
Leur président.
Mais non, je pense que c'est vu un peu comme ça, où c'est Spider-Bite, là. Ils ont échangé des petits regards avec Miles. Ça a l'air d'être bien passé. Il y a moyen que...
Ça va finir comme dans La Boussole d'Or. Exactement pareil.
C'est-à-dire
ah bah, ah, si moi je l'ai
la croisée des mondes, c'est-à-dire
ouais.
Ils vont coucher ensemble.
Ah mais attendez, vous allez spoiler quelque chose.
C'est-à-dire qu'ils peuvent pas. Je vais spoiler le livre. Attention,
ah, okay.
spoiling de livre. Ouais. C'est qu'ils peuvent pas être ensemble parce qu'ils viennent chacun d'un univers.
Ouais. Ils peuvent pas rester ensemble, sinon ça détruit la poussière de l'autre, je sais plus quoi.
C'est pour ça qu'il faut aller voir ce Spider-Man là actuel au cinéma pour un petit rancard et tout. Et quand tu sors du film avec la personne, tu dis je suis si heureux qu'on soit dans le même univers.
Oh là là.
Oui, je sais, c'est nul.
Alors c'est marrant parce
que
ça
peut marcher.
C'est marrant parce que je suis sûr que une fille dit ça à un mec, le mec se dit oh yes, tu vois. Un mec dit ça à une nana, se dit oh c'est quoi ce tocard sur qui je suis tombé, tu vois.
Oh, ça dépend où ils en sont avancés dans leur relation.
Ça dépend s'il le dit en espagnol ou pas.
Mi amor.
Tu vois là, ça passe. Tu estás de universitos.
Je sais pas. Oula.
Alors ça, oula, c'est l'espagnol approximatif.
Ça vaut même pas un B- ça. Hein.
J'ai pas fait d'espagnol, je m'en fous.
Non, enfin bon, voilà, c'est, on pourra en parler encore des heures tellement ça m'est bien ce film.
C'est très très dur d'en parler parce qu'ils réussissent presque tout à tous les niveaux. Donc comment parler d'une parfaite réussite, quoi.
Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qu'on a pensé la presse.
Mais oh là là, qu'on a pensé la presse.
Nous ne sommes que de vulgaires cobayes, hein, soumis aux affres du pop-corn et autres rendez-vous cinématographiques dans le cinéma le plus fréquenté du monde. Alors que la presse, eux, hein, les privilégiés, là, ceux qui ont des projets presse, là, hein,
ceux qui voient les films avant tout le monde. Hein,
j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont mis comme adjectif sur leur critique.
Vous voyez, vous.
La revue de presse. La revue de presse, Kevin, tu vas nous en parler tout de suite. Je fais juste un petit point box-office pour annoncer le truc. On est dimanche, donc ça fait 4 jours qu'il est sorti le film. Il est sorti mercredi et c'est le meilleur démarrage de l'année pour le moment. Devant Les Gardiens et devant, c'est les chiffres américains, mais c'est ceux qu'on prend en compte à chaque fois pour le box-office. Donc ce Spider-Man-là est devant Mario Bros et devant, devant Les Gardiens de la Galaxie 3 avec 51,7 millions de dollars. C'était,
il le mérite amplement.
Ouais. Et bravo, c'était voilà, le meilleur démarrage vendredi. Et donc ça va certainement tout éclater sur le cumulé. Sur le cumulé, ouais, je pense qu'on peut peut-être atteindre le milliard. Hein. Au final, à travers
je pense
le
qu'il va les dépasser même.
Donc voilà. Donc ça devrait atteindre pratiquement les 120 millions de dollars d'ici la fin du week-end. Aux États-Unis seulement. Mais c'est l'indice. Après, dans le monde, on verra ça plus tard pour les chiffres. Je te laisse, Kevin, avec les notes à travers
bien
Internet.
Bien sûr. Eh ben, je vais commencer avec Rotten Tomatoes, 95. Ouh, donc très très bonne
ça
note.
Ça doit être un des films les mieux notés du site, non?
Bah oui, ouais, en général.
95
de l'année, je pense. Ouais.
Très très bien, Metacritic un peu plus sévère, mais 87 quand même. Ah, et Allociné, ouais. 4,1.
Très très bonne note, Allociné.
C'est
très
plus. C'est plus.
C'est plus
oui,
que son homologue.
Que Spider-Man No Way Merde. Et ça, ça fait plaisir.
Spider-Man No Way, référence à Jojo.
Toujours. C'est vrai.
Spider-Merde.
Et je commence avec Écran Large. Écran Large nous dit « Aussi grisant qu'un swing de l'homme-araignée, Across the Spider-Verse est un geste de cinéma d'une puissance folle, dont la boulimie n'est jamais prise en défaut. Le film croit tellement à la variété de ses images que son effet patchwork y trouve une étonnante fluidité, notamment lorsqu'il met en scène une Inde futuriste en cel-shading ou un spider-punk fait de collage. Par ce fourmillement d'idées, le fanservice obligatoire de Marvel est renvoyé à sa nature cosmétique, plutôt que de devenir une fin en soi vide de sens, n'est-ce pas No Way Home ?»
Ouais.
Et bah 100% d'accord avec tout ce qu'ils ont dit.
Et en plus, Écran Large, ils avaient fait un relatif entre l'industrie hollywoodienne et le message du film. Donc c'est peut-être métaphorique comme ça, peut-être poussé. C'est Johanna qui m'avait transmis ça. Johanna qui a d'ailleurs aurait adoré faire le match retour avec nous parce qu'elle a vu le film. Mais malheureusement, elle est prise par le travail. Elle a adoré hein, Spider-Man, mais elle m'a écrit, j'ai lu la critique d'Écran Large sur Spider-Man. Ils ont adoré, ils ont vu dans cette thématique du canevas une grosse critique d'Hollywood actuelle dont les blockbusters et les films de héros de super-héros sont figés dans les mêmes canevas et où ceux qui proposent des histoires différentes sont minoritaires et traités comme des anomalies.
C'est vrai qu'on peut, on peut faire ce parallèle.
On peut carrément faire ce parallèle. C'est
je
bien
pense
vu.
Qu'il y est.
C'est bien vu. Et ouais, je pense qu'il y est aussi. Hein. Ils sont loin d'être cons, là, les films Miller et Chris Carden.
Et attends, quand même. On leur a fait pas, ceux-là. Hein.
Hein.
L'Obs. Durant les 2h20 de ce qui n'est qu'un premier volet, point d'exclamation entre parenthèses, ils sont très étonnés.
Ils se sont fait avoir aussi.
Le film ne laisse aucune facette de cet objet pop culturel hors de sa toile. Across the Spider-Verse est brillant par son ingéniosité, touchant par son émotion et absolument révolutionnaire par sa maîtrise technique. Il est si foisonnant qu'il faudrait s'arrêter sur chaque plan pour en dénicher tous les trésors. Devant ce tourbillon psychédélique, ce délire graphique, ce fourmillement permanent, on reste estomaqué, comme dirait la ministre de la Culture. Petit taquet au passage.
Bien vu.
100% d'accord encore. Je vais dire ça pour toutes les critiques. 100%
vrai,
d'accord.
Non, t'inquiète pas, j'ai quand même des critiques, tu vas pas être d'accord avec.
Ah non.
J'ai hâte de voir les vidéos de passionnés sur YouTube qui auront fait le film
image par image
et qui vont décrocher tous les clins d'œil.
Regardez le reflet dans cet œil, c'est le vautour.
Parce que malheureusement, ça passe trop vite pour le faire. Il y a tellement de choses à l'écran. Mais c'est vrai que tu sens que tout est hommage, tout est clin d'œil.
Mais ce qui est bien,
fond,
c'est que ça veut dire que c'est un film que tu peux voir plusieurs fois. Et en apprécier chaque visionnage parce que tu vas redécouvrir des choses. Ouais. Ou découvrir des choses tout court.
Puis en même temps, chaque plan est un tableau, donc c'est que du plaisir.
Chaque tableau est un plan. Non, ça ne fonctionne pas. Le journal du geek.
Le journal du Geek, plusieurs fois repoussé et annoncé en deux parties, la suite du spectaculaire Into the Spider-Verse se dévoile enfin, apportant une réponse à la question existentielle, sera-t-il capable de faire mieux que son aîné ? L'équipe créative de Spider-Man Across the Spider-Verse ne le dit pas, elle le montre.
Et oui, c'est ce que j'ai dit pour moi, Samir.
Pendant 2h20, l'équipe nous livre un long métrage éblouissant, étourdissant, reprenant à chaque point fort d'Into the Spider-Verse en les multipliant par 100, par 1000. Un déluge de superlatifs à la hauteur de la démesure d'un film qui n'a jamais eu l'ambition de se reposer sur les lauriers de son prédécesseur pour continuer à jouer la carte de l'audace sans aucun frein créatif.
100% d'accord.
Yes. Ouais. C'est vrai que c'est dur de faire une suite. Et de garder, soit déjà être constant sur comment il reçut le film, mais encore plus dur de faire mieux. Et là, pour le coup, il rejoint le clan de ceux qui ont réussi. Je pense à Toy Story ou à d'autres, tu vois. Mais
le Parrain.
Le Parrain, il y en a d'autres qui ont fait des meilleures suites que, bah voilà, faites de la place pour
Vendredi 13.
Vendredi 14.
Criticat, wow. Journal des chats. Qu'en pensent les chats?
Bah ils ont leur représentant en plus.
Et bah les chats ils sont un peu plus chiants que les autres.
Putain,
il y a
Spider-Cat, ils sont pas contents.
Ah, ils sont chiants, c'est les chats. Une fois au cœur de la citadelle de la Spider Society, Miles comprend que tous les récits de ses semblables s'articulent autour des mêmes événements structurants. Refusant d'accepter la mort programmée de son père, Miles va alors tenter de briser le canon narratif. Paradoxalement, Across the Spider-Verse reste quant à lui trop souvent prisonnier de son programme fondé sur l'accumulation de références et de clins d'œil métatextuels. Le film se complaît dans un fanservice rappelant même par endroits le plus opportuniste de ses cousins en prise de vue réelle, Spider-Man No Way Home. Les ambitions formelles du film se heurtent à son modèle économique reposant sur l'interconnexion de suites en cascade. Espérons que le futur Beyond the Spider-Verse prévu pour l'an prochain saura enfin briser la rigidité de ce canevas.
Mais il m'inquiète, hein, faudrait peut-être appeler la rédaction hein, parce que ça fait un moment qu'ils sont aigris les chats. Hein.
Trop d'herbe à chat. Ça les a.
Et la nuit, tous les chats aigris.
Je suis trop tard, mais je trouve ça
non,
très
mais,
bien.
Non, mais je suis désolé, là on peut pas parler du terme fan service. Dans le sens où c'est utilisé pour illustrer un propos qui fait sens et qui rejoint le scénario du film et les enjeux et tout. C'est, le fanservice, c'est vraiment quelque chose que tu peux enlever. Là, pour le coup, c'est vrai que tu peux l'enlever si tu veux, mais je veux dire, ça illustre le fait qu'il y ait plusieurs univers et que même.
Mais après.
Parmi tous ces univers graphiques différents, il y a même de la réalité. Enfin,
après,
la
le
réalité.
Fanservice, c'est pas un bon mot forcément. Oui, il peut y avoir du bon fanservice. C'est juste que les films d'animation Sony le font bien dans le sens où ça s'intègre dans l'histoire et c'est malin parce que ça te surprend et c'est rigolo. Alors que c'est un peu foutu à la truelle dans la plupart des films du MCU ou du DCU par exemple.
Là, je vois pas du fan service vraiment quoi. Enfin, je j'entends pas ça comme ça. Je suis pas objectif.
Mais est-ce que c'est un podcast objectif ?
Non, c'est vrai.
Hein ? Le point. Et on finira avec eux parce que j'ai pris beaucoup. Le film s'éparpille dans un maelstrom de monde et de personnages sur un rythme d'autant plus frénétique que, selon le principe planté dans le premier opus, chaque déclinaison de Spider-Man bénéficie de son propre style graphique. Il en découle une surenchère qui confine bien trop souvent à l'orgie visuelle. Alors certes, la prouesse technique est indéniable, l'abattage graphique est tel qu'on y déniche forcément quantité de propositions visuelles audacieuses, mais cette surenchère a un prix. L'action est rarement lisible et les enjeux narratifs pour le moins confus.
Elle est grabataire, cette critique.
Cet assourdissant tintamarre recouvre le cœur battant du film, à commencer par la relation entre Miles et Gwen, et c'est d'autant plus regrettable que dans les trop rares moments où il se calme, Spider-Man Across the Spider-Verse propose quelques jolies scènes comme ce simple dialogue entre ces deux amoureux transis accrochés à l'envers sur la façade d'un bâtiment de Brooklyn. Ces quelques instants de pause nous rappellent l'importance de prendre le temps de planter des personnages, de proposer des enjeux clairs, bref, de raconter une histoire, tout simplement.
Je crois qu'ils avaient envie que ça ressemble à un Godard, en fait. Deux amoureux qui parlent.
T'imagines Miles Morales qui se peint un visage en bleu et qui se met dans une cavette, dans une...
Même s'ils ont adoré exactement la même scène que moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont dit. Quand ils parlent d'isibilité des scènes d'action, tu vas dire, hé les gars, ça fait 15 ans qu'on se tape du Marvel où on bite rien à ce qui se passe dans les scènes d'action.
C'est très faux.
Alors que là, on comprend quasiment tout, quoi. Et même quand c'est légèrement brouillon à cause du style graphique, ils trouvent le moyen de faire des ralentis ou des arrêts sur image pour te laisser le temps d'apprécier ce qui se passe. Tu vois. Franchement, je les trouve vraiment malheureux.
Non, mais ça donne un peu l'impression de gens vieux ou méprisants qui là font chier et ne regardent même pas habituellement les films Marvel en fait, et non pas vraiment de.
Peut-être qu'elle a oublié ses lunettes, la personne.
Peut-être.
C'est pour ça.
Mais elle parlait aussi du vacarme assourdissant.
Bah, peut-être qu'elle l'a mis trop ouais, fort sur l'appareil.
Quelqu'un qui ne supporte pas.
Ils ont récupéré le son qu'on n'avait pas en fait. C'est ça. Il y a beaucoup trop de son dans cette salle. J'ai l'impression qu'il y a une enceinte en plus.
Et voilà, c'est tout pour moi.
Eh ben merci Kevin. Bon, il y a quand même 90% de gens qui ont kiffé sur les critiques.
Mais ouais, j'aime bien surprendre des gens qui n'aiment pas comme ça.
Je suis quand même étonné que le film n'ait pas eu des critiques dithyrambiques parce que vraiment.
T'as eu des critiques dithyrambiques.
Non, mais que toutes les critiques n'aient pas été dans le même sens.
Mais il y a toujours des gens qui sont.
Mais ça reste du film de super-héros et un peu geek et tout, donc ça ne fait pas l'unanimité.
C'est vrai que c'est du genre.
Oui.
Je veux dire, si le père de Miles Morales était travailleur social et que sa mère avait un problème de schizophrénie latente, bah peut-être que là, ça aurait plus haut que les Français.
Ah, c'était pas le mot d'or.
Oh là là.
Mais réalisé
par les Dardennes.
Et tout ça en noir et blanc, bien entendu.
Et après, on va nous dire que le film d'animation, c'est pas du cinéma, bah putain. Quand tu vois ce film-là, là, avec les plans qu'il y a et les cadres qu'il y a, les idées de mise en scène qu'il y a, et en plus le travail abattu, graphiquement parlant, artistiquement parlant, passionnément parlant derrière, enfin je veux dire.
Oui, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, malgré tout ce qu'on a pu en dire, on est vraiment très loin de ce qu'on a ressenti en voyant le film. Il faut vraiment le voir pour comprendre tout le travail qui a été fait en mise en scène.
Voyez-le.
Donc ouais, si les gens qui l'ont pas vu, ils sont encore là. Bon bah déjà, désolé. Hein.
Bah vous l'avez vu, vous avez aimé, j'espère.
Spoiler, mais ça vous empêchera pas de kiffer autant en voyant le film, parce que c'est juste dans les yeux, c'est quelque chose qu'on peut pas vous faire retranscrire en podcast, hein, mais c'est une tuerie. C'est abusé comment c'est une tuerie, j'ai envie de lécher l'écran tellement c'est beau.
Calme-toi, arrêtez-le.
Non mais ouais, mais c'est, voilà, ça fait plaisir, ça se produit 2-3 fois par an, là c'est tombé sur un film qu'on a traité au moins, parce qu'on n'avait pas eu le nez fin l'année dernière, on avait raté pas mal de chefs-d'œuvre. On avait préféré les douilles, mais cette fois-ci c'est bon, on y est. Et de se dire que c'est un blockbuster qui réussit à allier cinéma, conscience de mise en scène, humour, enfin tout ce qui fait qu'un
mélange de genre, mélange de médium,
un film grand spectacle peut aussi être un chef-d'œuvre, hein, je le redis, c'est possible. Voilà, c'est clairement le témoin de ça.
Et un film d'animation.
Et en plus de ça, un film d'animation pour bien faire chier tous ceux qui pensent que ce n'est pas du cinéma. Bah voilà.
Hein, Antoine Decaune.
Et tous les autres. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais précipitez-vous, invitez tout le monde à aller le voir. Voilà, parce que ça peut, vu déjà l'héritage qu'il va y avoir là prochainement, parce que j'ai vu que les prochains Tortue Ninja, par exemple, produits par Seth Rogen, là, qui vont sortir cet été, c'est totalement dans le style graphique de. Enfin, je veux dire.
Ah ben, on en arrive à ce dont moi j'ai peur et ce dont on avait parlé pendant la BA.
C'est pas grave.
C'est l'idée de, à trop vouloir réutiliser ce truc-là, on en est une overdose,
mais c'est pas grave,
et qu'il le dénature.
Ça changera pas ces films-là, tu vois.
C'est comme les Matrix-like. Tu sais, quand il y a eu Matrix, on a eu 50 Matrix-like. Bah, on n'en entend plus parler maintenant.
C'est ça, les films de super-héros, les films catastrophes. À une époque, il y en avait des chiés. Et finalement, c'est mort. Tout évolue. Mais en tout cas, c'est pour dire à quel point l'impact est là, quoi. Un Spider-Man, qui l'aurait cru en vrai ? Ça aurait été un Pixar, un Disney, tu te serais dit, bon, bah, c'est normal. Entre guillemets. Mais non, c'est un putain de Spider-Man de chez Sony, quoi. Voilà, c'est Spider-Man, une grosse licence, un gros nom de super-héros qui réussit à redéfinir le genre. C'est un truc de fou, quoi. Voilà, comme quoi, on peut prendre la culture geek
et pas chier dessus.
Voilà. Oui.
À une époque où les comics, hein, on les mettait dans des cases à la Big Bang Theory, là, avec des coupes pas possibles, et puis que ça t'ouvra jamais de meuf ou des trucs comme ça. Maintenant, le geek, hein, domine le monde. Enfin bref, je suis en train de partir, là, arrêtez-moi.
Si tu veux, on fera une émission là-dessus, c'est un autre débat.
Ça fait 4 ans qu'on essaie de t'arrêter, vraiment, on n'y arrive pas.
C'est pas forcément une bonne nouvelle.
Allez, voilà. Allez. Voilà, c'était le match retour du fabuleux Spider-Man Across the Spider-Verse, chef-d'œuvre qui nous a réunis autour d'un écran, ensuite autour d'une bière et ensuite autour de l'amitié qui nous unit.
Sera-t-il aux Oscars l'année prochaine ?
Il sera aux Oscars et là il part vainqueur.
Je pense que oui.
À voir les autres films d'animation qui vont sortir cette année, mais. En vrai, il y a moyen qu'il fasse, j'allais dire le back-to-back, mais non, il aurait fallu qu'il soit sorti consécutivement.
Ouais, mais il va prendre l'Oscar.
Il y a moyen. À moins qu'ils attendent la sortie de la suite pour voir si vraiment ça vaut le coup. Parce que c'est vrai que c'est peut-être un film qui sera à juger dans son ensemble, étant donné qu'il est en deux parties. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Nous verrons.
Voilà, en tout cas, c'est une maestria de talent. Bravo à tous ceux qui ont participé à ce film, et merci à eux. Nous, la semaine prochaine, on va se match retourner à...
Un autre film de super-héros.
Un autre film de multivers.
C'est vrai qu'on est dans les super-héros là, mais on revient dans le live avec The Flash. Ah, ça tease l'épisode qui arrive. On vous en dit pas plus. Vous pouvez passer ces petits moments en slow-mo pour voir si on n'a pas caché des petits messages cachés. cacher des messages cachés, voilà. C'est la fin d'un épisode, ça ne veut plus rien dire. Bref, ce sera The Flash, un film live sur l'univers DC cette fois-ci. Au revoir Marvel, bonjour The Flash. Eh ben merci à tous, hein. Sinon les réseaux sociaux c'est Twitter, Facebook, Instagram. Les épisodes c'est sur toutes les plateformes d'écoute, notamment YouTube aussi, vous pouvez venir vous abonner. Et puis très vite, au revoir, bye bye.
Ciao,
bye.
Salut.
Salut.
À bientôt.
Arrivederci.
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 Arrivederci.